La première partie du podcast sera consacrée à l'événement qui nous réunit quand même autour du cinéma chinois. C'est à la fois la rétrospective qui s'est tenue le mois dernier, donc en mars, à la Cinémathèque, sur Wuxia Wuxian, et la sortie en salle de The Assassin, qui a plutôt bien marché en France, donc on est quand même très, très content. Samir, est-ce que tu peux un peu nous présenter Wuxia Wuxian, nous dire comment tu l'as découvert, quelles sont tes impressions sur ce cinéma?
Wuxia Wuxian, je l'ai découvert dans les années 90. Plus particulièrement, j'étais à la fac, donc en 97-98. Et à travers un documentaire d'Olivia Assayas, qui avait filmé... Pardon ? Voilà, Portrait de Wuxia Wuxian. Et il y avait aussi un livre qui avait été édité pour la revue Les Cahiers du Cinéma. Et donc, les années 90, Wuxia Wuxian, c'était vraiment un genre de cinéma qui venait donc des pays d'Asie. Et il y avait aussi Wong Kar-wai, il y avait aussi Edward Yang, il y avait tous ces cinéastes-là. Et il y avait Stanley Kwan, surtout Stanley Kwan qui malheureusement, on n'en parle pratiquement plus, mais il avait fait un film qui s'appelait Center Stage. Et ce serait intéressant de contextualiser un petit peu ceux et celles qui découvrent ce cinéaste, dont les films sortent en salle de cinéma. Je parle de ça parce que Sayas, Tesson... avait déjà écrit sur ce cinéaste-là, sur ce mouvement-là, sur cette nouvelle vague taïwanaise au début des années 80, avec un numéro spécial très intéressant qui est resté une bible d'ailleurs. Et moi j'ai découvert ce cinéaste dans les années 90 et ça a été pour moi une très très grosse claque, parce qu'en plus des films qu'on trouvait dans les salles de cinéma, il y avait certains films qu'on pouvait voir aussi à la télévision sur les chaînes câblées. Je me souviens par exemple du Maître de Marius, de l'avoir vu sur une chaîne câblée, des films comme ça. Et c'était très particulier. C'était un cinéma qui nous sensibilisait. Pour quelle raison? Parce qu'on avait cette impression d'avoir en face de nous d'avoir retrouvé une espèce de document perdu depuis des années, des décennies, qu'on cherchait, qu'on avait même commencé même à rêver de ce document-là, et que finalement on l'a retrouvé. Et avec le recul, parce qu'on découvre tous ses premiers films, les trois premiers films qu'il a fait. Wuxia Wuxian est né en 47, il est né en Chine. Et je crois un an ou deux ans après, sa famille, lui, déménage à Taïwan, dans une petite ville de Taïwan. Et c'est quelqu'un qui aurait pu devenir une espèce de voyou. Il a été un petit peu, c'était démuni, larcin, etc. Mais à 22 ans, il fait son service militaire. Et il découvre le cinéma. Et c'est après cela qu'il rentre dans une académie de cinéma, qu'il commence à travailler en tant qu'assistant. Puis à un moment, plus ou moins, il devient scénariste. Et il commence à faire des films, des longs métrages, début 80. Ces trois premiers films ont un succès considérable. Mais quand on les revoit, pour ceux et celles qui ont la possibilité de les revoir, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait après. Mais ce sont des films qui ont eu un succès considérable. Et ensuite, j'avais noté ça, il rencontre... une personne qui a beaucoup compté dans sa vie, je sais pas si tu vois un peu... c'est son scénariste. C'est son, voilà, exactement. Je l'avais noté quelque part, c'est une romancière.
Oui, c'est scénariste.
Voilà, et... donc Xu Tianwen, qui est romancière à la base, et qui est donc quelqu'un de très intellectuel, et qui le fait rentrer dans les milieux intellectuels de l'époque, et c'est là qu'il va rencontrer... Edward Yang, j'avais noté aussi d'autres cinéastes comme Wang Jian, bref, la nouvelle vague taïwanaise. Alors, ils ont fait un film ensuite qui s'appelait L'homme sandwich, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui,
L'homme sandwich, qui était une espèce de film manifeste de cette. C'est un peu Paris, Paris vu par pendant la période des années 60 de la nouvelle vague. C'est un peu ça, quoi. Et donc, il y a, je crois, on peut dire peut-être trois étapes, trois parties dans la filmographie d'Wuxia Wuxian.
En fait, lorsqu'ils se sont rencontrés avec sa scénariste, c'était à l'époque, elle, à Taïwan. Dans les années 80, en fait, c'est là où s'est finie la loi martiale à Taïwan. Et c'est pour ça qu'ils ont pu voir les films étrangers, dans les films de la Nouvelle Vague. Et c'est elle, la scénariste, qui possédait tout ça et qui invitait tout le monde pour voir les films.
Ça, c'est important aussi. En fait, l'histoire, avec un grand H, très, enfin, il faut en parler. Dans les films de Wuxia Wuxian, ça peut être la base de tous ces scénarios. Dans l'histoire, avec un grand H, est très important pour Wuxia Wuxian. Et il y a la première partie, c'était un des films qu'il avait fait autour de sa biographie, de sa propre vie. Il y en avait quatre. Les garçons de Feng Kuen en 83, Elle était chez grand-père de 84, Un temps pour vivre, un temps pour mourir en 85, et Poussière dans le vent en 86. Et tous ces films, on les découvre beaucoup plus tard, dans les années 90, etc. Et ça, ce sont des films qui parlent de l'enfance, de l'exil, du décès des parents, de ses grands-parents, mais aussi sur des jeunes qui découvrent l'amour. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est aussi intéressante, c'est tout ce qui... Dans la première partie, l'histoire avec un grand âge est mise en arrière-plan. Dans la deuxième partie, cette histoire-là, l'histoire de la Chine, l'histoire de Taïwan, est mise en premier plan. Et ça donne le maître de marionnettes, qui est pour moi son chef-d'œuvre, qui date de 93, sur l'occupation japonaise. Il y a La Cité des Douleurs en 89, qui parle du Kuomintang. Il y a Good Men, Good Women, qui parle de la guerre civile en 95. Il y a Goodbye So Goodbye et Goodbye, et Millennium Mambo, qui parle plutôt de l'aspect millénaire et tout. Et puis il y a cette troisième partie, pour les aficionados du CAOCN, c'est peut-être une partie peut-être un peu décevante, où on retrouve le Café Lumière, le voyage dans le ballon rouge.
Il commence à s'enchaîner déjà d'hommages et d'expérimentations.
Voilà, mais en tout cas, ce qu'on connaissait de CAOCN, c'est quelque chose qui était... plutôt inaccessible. Alors, moi j'ai toujours eu cette impression en voyant les films de Xiao Xian de voir des films. Ce qui m'a toujours intéressé dans son cinéma, c'est les personnages. Et j'ai cette impression que ces personnages ne sont pas des personnages qui sont faits de chair et d'os, mais plutôt d'ombre et des lumières. Il a une manière de capter. Cette captation elle se traduit par un noyau fictionnel, donc une fiction, dont il va étirer jusqu'à trouver un sens documentaire. Et c'est ça qui est fascinant dans ces premiers films. C'est qu'on a... Ces films ne sont pas longs, ils sont lents. Ils ne sont pas contemplatifs. Ce sont des films qui ressemblent à des rêves. Et ces rêves-là, et parce que ce sont des films qui ressemblent à des rêves, on a cette impression de voir, non pas des personnages, mais des ombres, des silhouettes, des choses de ce genre. Et c'est ce qui fait que c'est un cinéaste qui se base énormément, qui travaille beaucoup sur les détails. C'est-à-dire qu'il peut filmer un plan pendant une minute sur une femme en train de préparer un thé et filmer une scène dite d'action avec la même intensité. C'est que tout dans son cinéma, il y a une équité dans son cinéma qui est très intéressante. Et de ce point de vue-là, quand on est dans un rêve, on a cette impression que quelque chose est bien réel, on a cette impression que tous les détails sont là pour comprendre ce réel, et on voit tout, et puis quand on se réveille, on garde des petites choses. Et c'est pour ça que moi, en tout cas c'est par de ma subjectivité, la sensation que j'avais avec les films du Xiao Xian, ces films des années 80 et 90 bien évidemment, j'avais toujours cette impression, en sortant de la salle de cinéma, déjà je ne me rappelais même plus de quoi ça parlait, enfin, le scénario je m'en foutais même un peu, mais j'avais des détails, et je me disais, des points, des zones d'ombre, et je me souvenais plutôt de plans, de personnages, de gestes, mais jamais vraiment de l'histoire, du scénario et de sa construction narrative. Et Xiao Xian est un cinéaste qui, pour moi, montre le cinéma d'une manière extrêmement majestueuse. J'ai rarement vu un cinéaste aussi fort pour parler de son enfance sans tomber dans le misérabilisme, sans tomber dans le voyeurisme. J'ai rarement vu un cinéaste mondial parler de la grande histoire en se focalisant uniquement sur le quotidien, sur des petits détails, sur des choses. C'est un cinéaste du détail retrouvé, Xiao Xian. Et il est vrai que pendant 8 ans, j'ai attendu avec impatience de voir un rêve pur et dur dans un cinéma, et je suis très content de l'avoir enfin retrouvé avec Xiao Xian dans The Assassin. C'est vraiment un cinéaste qui a marqué, enfin pour moi je pense que c'était un groupe de cinéphiles dans les 90 quand on était à la fac de cinéma, et Xiao Xian c'est un cinéaste qui a énormément marqué parce qu'il venait d'une cinématographie que l'on ne connaissait pas forcément, il n'y avait pas l'invention d'Internet, tout cela, on connaissait très peu, mais c'est un cinéaste qui a une manière de parler qui a une manière de parler de son pays avec un quotidien qui nous ressemble à tous. Et pour moi, c'est l'un des plus importants, oui, c'est quelqu'un qui a donné... Mais je reste beaucoup énormément sur cette idée de personnage. J'ai toujours été fasciné. Et d'ailleurs, il y a un film qui est pour moi son plus beau film. C'est pas Le Maître de Mort, c'est Un été chez grand-père. Et quand on voit ce genre de film, on se dit que peut-être notre enfance était aussi notre enfance. Avec notre enfance, on peut peut-être faire des films aussi. Donc voilà.
Une conclusion sur ça.
Un été chez grand-père. Shang Tsung-Chi, il a fait un espèce de remake de Un été chez grand-père. Ça s'appelle Un été à Kshi et qui est sorti il y a 2 ans, je crois, en France, en salle. Et justement, c'est une espèce de remake de Un été chez grand-père. Et Shang Tsung-Chi, justement, était assistant réalisateur de House of Sien. Et il fait le même genre de cinéma. Il a aussi fait Best of Times et un autre film qui est le même genre de cinéma, sauf que lui, il se concentre dans la vie contemporaine, dans la vie actuelle. Mais malheureusement, il fait peu de cinéma parce qu'il est en prison pour viol.
Ah, ah c'est bien.
C'est un peu dommage.
C'est un violeur, mais il fait des films magnifiques.
Il n'a pas eu le même avocat que Roman Polanski. C'est dommage.
Oui, mais justement, parce que c'est.
Il a pris l'avion, c'est différent.
Alors,
Samir a parlé de 3 parties en fait dans la filmographie de Ossie Fienne. La dernière étant ses films de voyage, donc le voyage du ballon rouge. Et le film qu'il a fait au Japon en hommage à Ozu qui s'appelle Café Lumière. Est-ce que 8 ans après, The Assassin ouvre une quatrième voie, une quatrième partie dans sa filmographie, alors que même dans la manière dont Samir en parlait, on retrouve, dont Samir parlait de l'ensemble de sa filmographie, ça colle parfaitement à The Assassin, Martin.
Ah. Moi je termine mes chips.
C'est une belle introspection.
Disons que il n'a pas changé grand chose dans sa mise en scène. Quoi. Ça restait toujours un des plans séquences, filmé un peu avec pas mal de distance, avec des courtes focales, des choses très élégantes, avec vraiment des courts mouvements de caméra. Donc voilà, disons que son approche formelle n'a pas. Voilà, il bosse toujours avec les mêmes collaborateurs, Marc Lebling à la photo. Sa production designer, c'est toujours la même. Non, je pense qu'il y a plus une pause. En fait. Il avait expliqué à la Cinémathèque que s'il avait arrêté de faire du cinéma, c'est pas parce qu'il avait plus rien à raconter, c'est juste parce qu'il s'occupait de ce festival. Ouais. Et qu'il était vraiment accaparé par ça, parce que c'était pas très bien organisé, parce qu'il fallait remettre les choses un peu sur les rails. Donc voilà, mais ça lui a permis aussi de maturer un peu ce projet The Assassin, qui voilà, c'est un genre pour lequel il est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez lui. Il n'avait jamais fait de film de genre, quoi. Et si ce n'est le premier film qui était un peu des comédies populaires, un peu des films de Nouvel An chinois, qui étaient fort sympathiques. Hein, il y a Fong Fei-Fei qui est charmante et on peut voir Kenny B à ses débuts, voilà. Mais c'est juste...
Tu peux nous remettre en contexte de l'histoire de The Assassin.
The Assassin, en gros, c'est...
Je pense que tu es un des seuls à pouvoir le résumer, en ayant vu 3 ou 4 fois déjà autour de cette table, oui. Et ayant interviewé Ossie Fienne.
C'est très simple, c'est une jeune femme qui a été élevée par une nonne au principe des arts martiaux, qui revient pour une mission dans sa province natale, la province de Weibo. Donc il faut bien savoir, c'est dans un contexte historique un peu particulier en Chine, le pouvoir central n'a pas autant d'influence parmi ces provinces.
On est au 9e siècle.
Au 9e siècle, sur la dynastie Tang, et pour éviter, du moins pour contrecarrer certaines invasions barbares, le pouvoir central est entouré de provinces qui sont indépendantes et qui doivent faire rempart justement contre ces invasions. Le problème, c'est que certaines de ces régions tendent à vouloir prendre leur indépendance, et ce qui est le cas de la région de Weibo. Et la jeune femme, qui est interprétée par Shu Qi, qui vient de cette région, qui a été exilée, est dépêché et mandaté par le pouvoir central pour assassiner le régent de cette région qui est son cousin et son amour déchu. Donc voilà. Donc il y a plusieurs strates, les, comment dire, l'intrigue amoureuse, l'intrigue comment dire
politique
et puis le pur film de genre. Quoi. Et donc c'est un cinéma qui est pas du tout narratif, c'est-à-dire qu'on à chaque fois c'est très, enfin il aborde ces scènes comme vraiment un côté très pictural, c'est-à-dire que chaque séquence est une espèce de tableau vivant. Et il va disséminer d'ici ou là dans le quotidien des personnages certains éléments qui vont nous permettre de comprendre quelles sont les relations entre les personnages, quels sont les liens et surtout les intrigues en réalité, amoureuses et politiques qui se tissent dans.
C'est vrai que tout ça passe au second plan et on retrouve dans ce que disait Samir. Il y a une anecdote sur Sylvain que je trouve assez importante pour comprendre son cinéma. Il expliquait que quand il était plus jeune, il retrouvait en fait des impressions de la Chine, continentale, quand il était à Taïwan, à travers les films, mais pas forcément à travers les histoires, à travers les accents, à travers la langue, à travers les impressions qui se dégageaient des films. Et j'ai l'impression que ce qu'on trouve ensuite dans son cinéma, et particulièrement dans The Assassin, c'est cette idée de vouloir retranscrire quelques impressions. Et là, on plonge dans la Chine du 9e siècle, d'une manière très réaliste, mais en même temps irréelle, parce qu'il y a ce mélange de rêves qui vient dans certains...
De toute façon, le personnage de Chouki est limite très fantomatique. Quoi. C'est, voilà, c'est, elle est toujours dans l'ombre, dans le coin de l'écran... c'est le personnage principal, mais à côté de ça, elle est vraiment toujours en bordure du récit. Et c'est très intéressant. Moi, c'est la première fois que j'ai vraiment été capté par les images. J'étais vraiment hypnotisé par. Et pourtant, je suis allé le voir à 11h du mat. Hein, et le type à côté de moi était au bout de 2 minutes, il ronflait. Hein.
Plastic Man.
Non, Plastic Man, soit il se casse, soit il reste. Mais en tout cas, il reste.
J'ai attendu au bout de 20 minutes.
Voilà. Mais moi, j'ai vraiment été hypnotisé. La deuxième fois que je suis allé, vraiment, je me suis un peu plus concentré sur l'histoire pour savoir un peu plus.
Mais j'ai l'impression que c'est aussi. Voilà, que ce film, à la première vision, il doit rester ça. Un peu ce que disait Samir, des impressions, des moments, des.
Ah oui, totalement.
Ensuite, si on veut creuser, on peut le voir une deuxième fois en creusant le contexte historique, parce que Ossian, il a eu 8 ans pour le faire, il connaît très bien l'histoire, il a chaque détail historique.
Non, je vous invite à lire notre interview, parce que justement, il explique beaucoup de choses, et même moi, après 3 visions, j'ai compris certaines choses qui étaient restées un peu en suspens. Voilà.
Ce qui est assez fascinant, c'est qu'on retrouve ça dans le travail sur le son, c'est-à-dire que... Il y a un son qui est extrêmement réaliste, c'est-à-dire qu'on entend des bruits de la nature tout le temps, ce qui crée également, pendant c'est très réaliste, mais ça crée un caractère hypnotique, et c'est contrebalancé par des bruitages qui viennent vraiment du film de genre et du wuxia à certains moments. Donc on a cette altération entre
même les
choses extrêmement naturalistes.
Les clashs entre les épées, les combats et tout, sont hyper réalistes, c'est pas du tout les sons qu'on a l'habitude d'entendre dans les films de Shaw Brothers. Ou dans n'importe quel wuxia, quoi. C'est vraiment, ils ont fait un vrai travail de son, vraiment reconstituer ça de manière le plus probable possible, quoi. Et mais les chorégraphies, qui à certains plans, tu vois que c'est quand même assez câblé, mais on y croit. C'est-à-dire qu'il se base sur un toit, mais la façon dont il va traiter ça, tu te dis, les mouvements sont possibles. C'est ça qui est assez étonnant, quoi.
Moi, je reste quand même sur ce mélange entre cette espèce de naturalisme du cadre, des plans, et en même temps le fait qu'on est dans un film de genre où les gens, où les personnes peuvent voler, peuvent sauter sur les toits, où tout d'un coup il peut y avoir un sorcier qui va prendre une figurine de quelqu'un et lui lancer un sort, et pourtant ça marche parfaitement.
Mais surtout, ce qui est terrible, c'est que cet aspect-là arrive dans le dernier tiers du film, quoi. On a presque un wuxia hyper réaliste avec vraiment les intrigues de palais, tout ce que tu veux, et puis sur la dernière partie, en effet, un aspect fantastique qui commence et qui s'immisce dans l'histoire, et puis cette séquence où la maîtresse est envoûtée clairement, c'est vraiment une des plus belles scènes qu'il y ait, quoi.
Donc Yannick, tu as également pu voir The Assassin, quelles sont tes impressions sur le film?
Alors oui, The Assassin est arrivé jusqu'à Liège. Alors c'était ma première découverte de Wu Xiaoxian et j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai eu j'ai eu quand même des difficultés au début. Le film est particulièrement cryptique, le rythme est quand même très, très spécial. Ça a été compliqué de d'en comprendre les tenants et aboutissants. Je pense qu'il faudra que je le revoie une, voire deux fois, effectivement. Mais quand j'ai fini par me laisser porter par l'ambiance, par la beauté de la réalisation, j'ai vraiment plongé dans quelque chose de très particulier, de très déstabilisant. Mais un film, certes un peu longuet par moment, mais vraiment, vraiment très beau.
Nicolas ?
Non, mais je suis d'accord avec votre point de vue quand on aime ce genre de film. Mais non, mais en fait
je comprends. Le
non, 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 c'est pas du tout un Wuxia. C'est pas du tout un Wuxia, en fait. Mais
alors, c'est quoi ce genre de film?
Des films chiants.
Non, mais en fait, ce film, je comprends pourquoi on aime, dans le sens où c'est un film qui... Enfin, il n'y a pas de narration, mais si, il y a une narration, parce qu'il y a une narration dans tout film. Mais narrativement parlant, c'est un cinéaste qui, parce que je connais pas très bien non plus Aoussia Ossienne, je crois que j'ai vu Minéla Mambo et c'est tout, et c'est apparemment un cinéaste qui élague tout superflu de sa narration, c'est-à-dire que quelqu'un qui une fois qu'il a montré quelque chose ou qu'il a fait comprendre quelque chose à travers un plan, à travers un symbole ou un truc comme ça, à son spectateur, il n'y revient plus, il passe à la séquence suivante, enfin, il passe à ce qu'il veut raconter ensuite. Et donc forcément, la première fois qu'on le voit, on est forcément déstabilisé par ça, parce que nous qui sommes habitués à quand même à avoir
la plus
non, non mais à voir des films où, qui racontent avec un quand même habitué à de base quand tu découvres le cinéma, tu es habitué à voir des films qui te racontent un début, un milieu, une fin,
enfin, standard Hollywood,
voilà un standard hollywoodien quoi. Et de voir un film comme ça qui est là tellement à tous les niveaux, que ce soit au niveau des personnages, des enjeux, des conflits, tout ça. Et des thématiques politiques qui élaguent à ce point son intrigue et sa narration pour vraiment aller à l'essentiel et filer en ligne droite au final, c'est assez déstabilisant. Et moi pour l'instant, je l'ai vu qu'une fois et je reconnais que malgré la beauté de ce film qui est forcément immédiate, et on sera tous d'accord là-dessus.
À Cannes en plus. Hein.
À Cannes. C'est pas les mêmes. C'est important parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes conditions de visionnage. Après, on le regarde après avoir vu une quinzaine de films. C'est pas forcément pareil, donc j'irai le revoir là, peut-être la semaine prochaine, peut-être que la deuxième vision sera une révélation, mais pour moi là, pour l'instant, j'ai pas réussi à rentrer dedans, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, enfin non mais je sais que c'est mais j'ai pas réussi, voilà, à part la beauté des images, et c'est vrai, certains plans qui forcément te marquent la rétine après avoir vu le film, c'est pas un film qui me donne forcément plus envie d'y revenir que ça. Et je sais que je vais me forcer pour aller le revoir, mais
t'es pas obligé.
Non, par conscience professionnelle.
Justin. Je suis un peu d'accord avec Nicolas. Moi aussi, j'ai eu l'impression vraiment de voir un... Alors, j'ai rien à dire sur la beauté formelle, on est d'accord, mais pareil, j'ai eu l'impression de voir un squelette d'intrigue, de l'ombre de personnages. Enfin, je suis resté à l'extérieur complètement. Après, d'après ce que Samir a dit, c'est un peu un processus qu'il a, où c'est des espèces de silhouettes... au niveau des personnages, enfin ça m'a plus, j'ai un peu mieux compris avec l'introduction de Samir, parce que je connais pas bien non plus son cinéma, mais c'est vrai que moi je suis resté complètement à l'extérieur, hein, donc, alors que j'ai rien contre le Wuxia Pian un peu introspectif, par exemple Les Cendres du Temps, qui est quand même assez particulier aussi dans ce genre-là, et ça me parle plus que là où c'est resté assez austère, je suis resté assez extérieur à l'intrigue, à l'atmosphère.
Pareil pour moi.
Concernant l'intrigue compliquée...
Ah, j'ai pas dit que j'ai pas compris, j'ai juste dit que je restais extérieur.
Oui, exactement. Le fait justement que ce soit...
c'est froid, quoi.
Brumeux ou froid.
Il n'est pas plus chaleureux.
Je veux dire, l'un des chefs-d'œuvre aussi du Wuxia, justement, qui était à Taïwan, c'est aussi Touch of Zen.
J'adore.
Et l'intrigue, justement, n'est pas la plus
sensuelle. C'est excellent. À part le final, le reste, ça coule du four, c'est pas de problème. À part le final Bouddha, qui part dans un autre, dans une autre atmosphère, mais le
Touch of Zen, c'est... On retrouve aussi chez King Hu la beauté formelle et la place de la nature.
Mais l'intrigue est plus juste, ça se suit sans problème. Quoi.
Oui, mais justement, la fin...
Oui, c'est la fin, c'est un trip, c'est comme 2001, voilà, t'as une séquence qui part un peu plus loin, mais le reste du film,
On va rester sur The Assassin, même s'il y a des liens effectivement avec King.
Lui-même en parle d'ailleurs de ça, il le dit dans les entretiens.
Même s'il dit que ça l'a pas trop influencé, qu'apparemment c'est pas.
Non, il a dit qu'il était plus influencé par le Shambara que le Wuxia pour faire.
En tout cas, c'est un cinéma, c'est un film qui compte beaucoup à ses yeux.
J'ai un ami.
Ouais, alors après, je suis d'accord avec Justin pour dire que l'intrigue, bon, on est un peu extérieur par moment. Mais moi, c'est pas vraiment ce qui m'a captivé dès le début, en fait. Voilà, j'ai été pris dans le flow, comme disait Samir. On avait les petits gestes, tous les petits détails, les persos qui sont à peine esquissés comme ça et qui se déplacent comme des fantômes un peu. Et c'est ça qui m'a captivé, c'est ça qui m'a touché. C'est un cinéma très sensoriel, on n'a pas besoin, quoi, j'ai pas eu besoin de me raccrocher à un personnage ou à une intrigue quelconque pour me laisser entraîner dans ce.
Et puis l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, je veux dire, on peut déjà être entraîné par la mise en scène, par ce que nous montre aussi la scène de manière formelle et très immédiate. C'est extrêmement important, hein, d'ailleurs, c'est un style et aussi une vision du monde, du cinéma. Montrer ce qu'est la vie au 9e siècle, donc Chine à cette époque-là, c'est quand même primordial. Et ensuite, rien n'interdit, et moi, contrairement à Nicolas, je ne vais pas me forcer à aller voir le film une deuxième fois. Je sais qu'à la deuxième vision, je vais y prendre encore, enfin, j'espère en tout cas, mais je sais que je vais prendre plus de plaisir parce que j'ai pu me renseigner entre temps, parce que j'ai pu voir quelle était l'histoire d'origine et voir quels étaient les liens entre les personnages. Et là, l'opacité de l'histoire devrait paraître limpide à partir du moment où on sait de quoi il retourne. Mais l'un ne va pas forcément sur l'autre, Jérémy. Je trouve qu'on peut, avoir les deux, c'est-à-dire se laisser porter par ses émotions et en même temps faire les liens entre les différentes pièces narratives du puzzle que peut être le film.
Oui, ça c'est passionnant parce qu'après, il faut vraiment le vouloir. Quoi. Nicolas, il va se forcer, mais.
C'est pas que je vais le forcer, mais même derrière tout. Ces jeux de pouvoir, ces jeux de cours, c'est des choses que j'ai déjà vues dans plein de Wuxia ou des trucs comme ça, et c'est pas forcément
c'est au second plan, mais il m'aurait fallu quelque chose de peut-être plus solide aussi
à ce niveau-là. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais au final, juste me contenter de la beauté des images,
tu juges le film sur ce que tu aurais voulu voir et pas
non, parce que le problème c'est que ni au niveau de l'histoire, voilà, ni au niveau des personnages,
il n'y a rien
qui m'a fait me raccrocher. Parce que je parlais d'un film, ça n'a rien à voir, c'est pas un Wuxia ou quoi que ce soit, mais Time and Tide, par exemple, c'est un film qui est incompréhensible ou pas loin à la première vision, mais les personnages, l'énergie, il y a quelque chose qui se dégage qui fait que. Voilà, on rentre dedans, c'est quand même plus prenant malgré tout, alors que c'est incompréhensible à la première vision.
C'est bien.
C'est un peu quand j'avais vu The Assassin la première fois, pour avoir eu la chance de voir tous ces films, sauf les trois premiers, donc j'ai jamais eu la possibilité de les voir. Mais c'est l'un des films les plus accessibles de Wuxia Ocean.
C'est vrai qu'il a une petite parenthèse, il a quand même un beau succès en France. Il était premier au box-office à Taïwan, il a assez bien marché en Chine.
Il faudrait vérifier si c'est pas
le prix à Cannes.
Le prix à Cannes a bien été. Et puis le genre aussi.
Parce que quand t'as du détective, personne n'y veut.
Ouais, mais là, il a une filiation avec Tigre et Dragon un peu.
C'est plus grand public.
Je pense qu'il y a les deux. Il y a le retour d'un grand cinéaste, le prix à Cannes. Mais le fait qu'il ait marché à Taïwan et en Chine montre que ça peut être aussi un film accessible en termes de.
Mais
il a pas été dans le top 10 une seule fois. Il a marché, mais c'est vraiment relatif.
Mais
quoi.
Par rapport à ce qu'il a coûté, voilà, je pense que.
Mais est-ce qu'en France, c'est le. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est. Après, je passerai à autre chose, mais je voudrais savoir si c'est son film le plus rentable aujourd'hui en France. D'accord.
En même temps, tu vois l'affiche.
Oui, voilà, c'est ça, il y a tout un rêve. C'est bien vendu en même temps.
Après, c'est vrai qu'on ne va pas non plus se voiler la face. Il y a des gens qui. Enfin, je l'ai vu en salle, il y a des gens qui sortent de la salle, il y a des gens qui dorment. Ouais. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément prévenus de la teneur du film.
Mais bon, ouais, c'était pareil aussi que chez Grand Theft Auto Zen. Malheureusement, quand les mecs se battent, les gens ricanent dans la salle, quoi.
En fait, on est en 2016 et il faut dire ce qui est. Certaines personnes qui ont vu ou qui ont voir le film ne connaissent pas forcément la filmographie d'Ussia Hossein et de ce qu'il a pu donner comme. Comme soutien au cinéma dans les années 80 et 90. Mais ce n'est pas très grave, on s'en fiche. Après, moi j'entends bien ce que vous dites par rapport au film de genre, par rapport à comment il a travaillé le film de genre ou pas, par rapport à la narration, par rapport à l'histoire. Ça va être très difficile d'en parler, mais sans mettre en avant aussi ce que j'ai vu, ce que je sais de Ussia Hossein à travers ses films. Mais il est vrai que déjà, ce que je remarquais, c'est que c'était un des films les plus accessibles d'Ussia Hossein. Bon, déjà d'une part. Et d'autre part, dès l'ouverture du film, je me suis dit, bon, j'ai pas beaucoup vu de films de ce genre-là, de Ussia Hossein, mais je me suis dit très vite que c'était pas forcément ça qui l'intéressait. C'est plutôt un cadre, plutôt un décor. Par contre, là où je trouve qu'il y a quelque chose de phénoménal, les scènes d'action, les scènes de combat, je crois qu'elles durent en total, hein, 2 minutes, même pas.
Enfin, et puis c'est anti-spectaculaire.
C'est tellement...
Peut-être un peu plus.
Un petit peu plus, mais ça ne fait pas 5 minutes. Hein. D'accord, c'est pas Touch of Zen, où il y a des séquences magnifiques, chorégraphiées. Enfin, tu sais que Touch of Zen, on l'a vu ensemble, c'est un des plus beaux souvenirs de l'année 2015. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et puis ceci, ça arrive de manière furtive. Enfin, c'est radical, c'est ouais, brutal, c'est tu t'attends pas et tout. Ça, on le met de loin. Enfin, on le met à côté. Le genre, on le met à côté. Qu'est-ce qui nous reste? Ben, il reste un travail sur le montage qui est assez fascinant. Moi, je me souviens très bien de cette scène où... il y a une petite scène comme ça, juste avant que l'amant et l'assassin se retrouvent sur ce toit. Il y a une petite scène qui dure, enfin, elle doit durer peut-être quelques secondes, où l'on voit, si je ne me trompe pas, l'assassin qui a un masque et qui erre comme ça dans une espèce de jardin. Ça doit durer quelques secondes, et juste après, on voit cette scène où il y a l'empereur, je crois, et son épouse, qui sont interrompus par l'assassin. Et là, je me dis, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que entre deux plans, il y a une transition, il y a quelque chose. C'est là, à mon avis, que le cinéma de Ussia Hossein, à ce moment-là, crée une émotion. C'est de partir sur des moments comme ça, qui sont totalement abscons, totalement furtifs, et qui renforcent l'émotion du plan à venir. C'est ça qui m'intéresse en fait dans ce cinéma-là, c'est que c'est un film qui totalement assume son côté anti-genre, anti-action, et qui s'intéresse plutôt aux respirations. Voilà, c'est un film qui s'intéresse aux respirations. Son montage, il travaille surtout sur les respirations. C'est un film qui respire, mais de manière très... qui a une manière de respirer doucement, progressivement, jusqu'à ce qu'il y ait la fin ou la dernière partie où on atteint une espèce de très, très surréaliste, très fantastique. Enfin, on voit un film qui respire tout doucement. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce film-là. Je ne dis pas que c'est parce que vous vous attardez sur le genre ou sur pourquoi l'histoire, vous êtes passé à côté du film, c'est pas ça. En voyant ce film-là, c'est pas forcément quelque chose qui m'est... Enfin, ça ne m'a pas vraiment intéressé.
C'est en ça que c'est un film assez riche, parce que là aussi je serais sur l'esprit de synthèse, c'est que...
Et je crois pas que le scénario soit compliqué.
C'est vraiment que...
Je trouve que le genre est aussi respecté.
Oui, il travaille le genre quand même.
Moi j'ai trouvé comme un décor, franchement.
Mais les figures imposées du genre, elles sont là, quoi.
Exactement.
Elles sont là, les combats sont là.
Mais rapidement.
Oui, mais c'est pas grave, un genre c'est quelque chose qui vit aussi. Des figures de
ou
genre,
qui respire,
chose qui vit ou
qui respire, mais c'est
rien vraiment... n'empêche pas l'autre. Il y a pas de, c'est pas Ang Lee qui va s'attaquer à un genre et on va bientôt faire une transition sur Tigre
qui n'est pas plus mal d'ailleurs.
Voilà, mais en tout cas qui voit un peu le genre de haut. Je trouve qu'au contraire, aussi au sien, c'est quelqu'un qui admire aussi certaines figures du Wuxia Pian, qui les respecte, et ça se sent aussi dans son film. Qui a bercé sa signification, il les prend très au premier degré, et c'est pour ça que le film est aussi un très bon Wuxia pris pris au premier degré.
Oui, mais si.
Je sais pas si Yannick, tu as envie de rebondir là-dessus, justement, si au niveau du film de genre, ce que tu as pu en penser.
Ah ben moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est clairement un film de genre. Alors, effectivement, c'est un film de genre quasiment sans action. C'est, on voit plus ce qui se passe justement entre les scènes de combat, mais ça reste complètement ancré dans le genre. Et même s'il le tord complètement, s'il le prend à contre-pied et s'il peut décevoir les attentes de beaucoup, ça reste complètement un film de genre.
Oui,
ça, c'est juste qu'en gros, comme Touch of Zen ou certains films, c'est-à-dire que il y a une attente du public, ou du moins un certain public qui veut avoir une scène action toutes les 5 minutes. Quoi. C'est un peu du Marshall Porn, si tu veux. Quoi.
Ouais.
Voilà. Et lui, il va être complètement à l'encontre de ça. Quoi. Il cherche à raconter son film d'une manière un peu différente, avec sa sensibilité. Donc voilà, c'est au contraire, il apporte un souffle un peu nouveau et c'est ça qui est intéressant. Enfin, notre cher ami Wong Kar-wai, il l'avait fait aussi avec Les Cendres du Temps. Alors on l'a pas forcément vu en France au départ dans la bonne version. Merci à l'éditeur qui avait charcuté le film de 45 minutes sans l'autorisation du réalisateur.
On l'a redécouvert après.
Après, il y a la version Redux qui est encore un autre montage et tout. Là, qui pour le coup, d'ailleurs, un peu plus à part au cinéma martial qui était chorégraphié par Samong, mais ça restait quand même du pur cinéma de Wong Kar-wai sur l'amour déchu, des personnages hyper mélancoliques et tout ça. Quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir aussi comment.
Je trouve qu'ils existaient plus dans.
Plus sensible au cinéma de Wong Kar-wai qu'au cinéma de
c'est le premier ou le deuxième que je vois.
Je pense que tu auras la même réaction par rapport à ce que tu dis,
j'étais pas émisseur plus que ça quand je l'ai vu.
Mais moi, c'est vrai que c'est une démarche que j'aime beaucoup quand des cinéastes estampillés d'auteurs, et on peut dire la même chose sur Jason Clue quand il fait A Touch of Sin, qui s'attaque à un genre populaire, et qu'on sent qu'il y a vraiment une maturation du genre dans leur cinéma.
Et que c'est plus des figures populaires qu'un genre populaire.
Ça peut être des figures
voilà,
aussi.
Voilà. Mais même, Chae Ark qui a fait la part belle du wuxia pendant toutes les années 80-90. En 95, il refait le genre avec The Blade. En revisitant l'un des personnages clés et fondateurs du genre, qui est le manchot sabreur, et il en fait une espèce de film semi-documentaire, mais où il revisite aussi le film de super-héros, enfin voilà, ça veut dire ce qu'il y a, quoi. Mais le personnage se masque et agit pour sauver, des gens. Donc toutes ces figures à la culture pop avec un espèce de regard aussi très très documentaire dans son côté caméra à l'épaule, jump cut et tout ça.
C'est radical quoi, chaque fois.
Totalement. Alors le public n'a pas du tout suivi, ça marchait pour McLaren.
C'est devenu assez culte quand même par la suite.
Oui, voilà.
C'est plus en France ou dans le reste du monde. Donc ça a bidé, personne n'en parle.
En tout cas,
c'est bien.
Je suis désolé, tellement fait l'habitude de parler de Céo 5 qu'il faut en profiter.
Non, mais ce podcast est là pour aussi donc pour toi, c'est bien.
Merci. Non, en fait, moi je trouve que c'est en tout cas, c'est cohérent que Céo 5 ait fait ce film de genre, qu'il s'est réapproprié ce genre. Outre le fait que c'est un genre cinématographique qui l'a accompagné durant son enfance et tout, mais moi je trouve que c'est extrêmement cohérent. Quand on regarde un peu sa filmographie, en fait c'est quelqu'un qui s'est toujours arrêté sur sa propre vie, donc d'une part, mais aussi sur la vie de ses parents ou alors la sienne insérée dans l'histoire du pays dans lequel il vivait, mais aussi à travers des référents culturels, artistiques, comme la littérature ou le cinéma. On l'a vu avec Ozu, dans Café. Donc, pour moi, c'est extrêmement cohérent qu'il s'attaque à ce film de genre. Après, quand on regarde un petit peu de l'intérieur, là aussi, il y a une continuité logique avec ce qu'il a pu faire dans les années 80, 90 et 2000, dans le traitement des personnages, dans ces transitions, dans cette respiration, dans la thématique du rêve et tout. Pour moi, c'est extrêmement cohérent tout ce qu'il fait actuellement. C'est vraiment ça se prolonge, voilà. Donc je vois pas de rupture ou quoi que ce soit. Mais oui, effectivement, c'est un film de... ça reste un film de genre, c'est vrai. Après chacun a sa manière.
Ouais, je dis que c'est un film de genre, mais peut-être pas du genre qu'on croit. Ouais, parce que justement, à Cannes, lors de la conférence de presse, House of Sien a dit justement que lui, en tant que fan de genre, il aimait plus les films japonais que les films chinois. Et justement, dans les films japonais, il y a ces instants de respiration avant les combats. Et les combats durent même des fois quelques secondes. Et ce qui compte, c'est tout ce qui vient avant le combat, et le combat est comme un exutoire, et c'est ce qu'on peut voir aussi dans The Assassin.
Alors j'ai accolé à cette discussion sur The Assassin un autre film, qui est Tigre et Dragon 2, qui lui est signé Wang Yuping. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit extérieur au genre, vu qu'il a œuvré pendant toute sa carrière en tant que chorégraphe et de metteur en scène sur le Wuxia Pian. Voilà. Est-ce que Yannick, tu peux nous présenter ce Tigre et Dragon 2 qui est arrivé sur Netflix il y a quelques semaines?
Oui, bien sûr. Donc Tigre et Dragon 2 arrive un peu plus de 15 ans après le premier. Donc cette fois-ci réalisé par Yuen Wuping, qui avait chorégraphié les combats du premier.
Et réalisé les seules scènes correctes du premier.
On retrouve Michel Yeo qui reprend son rôle. Et Donnie Yen qui arrive au casting. On a un film très classique, en fait. Là, on est vraiment dans un film, vraiment, au bout de 5 minutes, on sait exactement ce qui va se passer tout le long. On a énormément de combats. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Il y a des défauts, c'est sûr. Mais bon, comme divertissement, c'est extrêmement plaisant.
Jérémy?
j'ai pas passé un mauvais moment devant Tigre et Dragon. Ça m'a bien fait rire, en fait, parce que Ben Wuping, il est en mode un peu, il est en pilote auto, il s'en bat pas trop. Il se dit, bon bah, on m'a donné, voilà, Netflix m'a donné des sous-sous, je vais faire un Wu Sapien pour le public américain. Après, les combats sont pas, les scènes d'action sont pas désagréables. Genre, je retiens une scène à l'auberge où Donnie Yen,
la scène d'introduction de Donnie Yen,
où Donnie Yen s'amuse bien à tataner voilà.
Cahier des charges, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a un cahier des charges. Il est respecté.
La scène de la rencontre amoureuse aussi est assez, joliment amenée. Ouais.
Oui, voilà, mais après c'est un peu neuneux,
c'est pas non plus extraordinaire.
Ouais, après, il le combat sur la glace,
c'est pas très joli en plus, parce que c'est sa barre de partout, les fonds verts sont assez dégueulasses.
Alors il y a quand même une colométrie sur
les colorimétrie,
c'est
pas du tout
des couleurs qui quand même piquent les yeux dès qu'on commence le film. C'est incroyable, c'est vert fluo. J'ai l'impression que
les vaisseaux ont explosé.
Le directeur n'a jamais vu d'herbe autrement que et qui s'amuse avec les couleurs les plus extravagantes possibles.
C'est sursaturé à certains moments, c'est désaturé à d'autres. Enfin, moi, il n'y a aucune cohérence de.
Non, c'est vraiment pas beau.
C'est pas beau du tout.
Et, c'est écrit par John Fusco qui avait œuvré sur Marco Polo, sur la série Marco Polo.
C'est ça qui est incompréhensible.
Netflix.
C'est bien. C'est que je comprends pas. C'est que je comprends pas non plus. C'est que ce soit un occidental. Enfin, qui a écrit.
Mais c'est un produit occidental, quoi.
Mais c'est un produit déjà.
Mais voilà,
si ça avait été un film sur
la
série,
peut-être la suite des bouquins. C'est des bouquins, c'est. Enfin, moi, il.
Oui, c'est
adapté de la suite de la.
Moi, ce qui me donne envie, c'est que ça ressemble à un épisode d'une série Netflix qui serait sur le Wuxia, en fait.
Oui.
On te dit, la prochaine série Netflix,
c'est
ça.
Marco Polo, c'est un peu ça, la série Marco Polo. C'est des intrigues de cours, etc. C'est du Wuxia, mais
c'est fait pour le public.
Mais c'est fait pour le public. Non, c'est une porte d'entrée, en fait. C'est Netflix qui veut rentrer en Chine et qui. Essayer de draguer la Chine.
C'est un peu les deux, parce que ils ont sorti.
Réussir à drailler les
ils ont sorti quand même. Bah, le film est sorti en Chine.
Pas,
hein.
Bien,
non, on parle pas de. Ah, ça, tu vas, ils vont pas être contents, les gens. Tu parles de viol pour.
C'est violent, là, quand même.
Ceci dit, le premier était produit par Warner. Hein.
Oui, mais
c'était déjà ça. Hein.
Écrit par James Samus.
Mais c'est logique, quoi. Dans la logique d'expansion de Netflix, c'est totalement logique. Et ils reprennent un film qui. Voilà, pour les Occidentaux, quoi, pour les gens. non, et pour les occidentaux, Tigre et Dragon, c'est la porte d'entrée. Quoi.
Ah oui, mais
ils ont découvert ce genre avec
le Tigre et Dragon.
Donc en fait, voilà, donc Tigre et Dragon 2, c'est justement ce retour-là. C'est ce retour-là, et on se dit, bah voilà.
Exactement,
c'est gentil, quoi.
C'est une double porte d'entrée qui semble évidente pour Netflix, parce que c'est un titre qui est connu à l'Occident. Et c'est un produit effectivement qui peut aussi marcher en Chine. Et c'est toute la logique de Netflix. C'est pour ça que ça fait un peu peur quand on sait qu'ils vont faire Gangs of Wasseypur, mais qu'ils rentrent exactement dans la même logique. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de quelque chose pour le public indien, donc ils vont produire une série Gangs of Wasseypur. Et en même temps, c'est un titre qui est reconnu à l'international, et donc ils vont pas prendre le Bollywood. Voilà.
Je crois pas ce que tu dis là quand tu parles de Gangs of Wasseypur.
Alors,
au contexte, parce que là,
donc Netflix s'intègre dans plusieurs pays. Donc ils sont en Chine, ils sont également en Inde, et ils sont en France.
Comme Marseille.
On peut prendre la France plutôt comme exemple. En France, quand ils sont en plan ici, ils vont lancer Marseille. Voilà, une série politique.
Le
House of Cards français, c'est comme ça que c'est présenté, en se disant que ça peut marcher pour le public français, et qu'en même temps, c'est une porte d'entrée pour le public international qui va découvrir une série française. Et Tigre et Dragon rentrent dans la même perspective, c'est-à-dire que c'est une production qui peut marcher en Chine, mais en même temps, le titre va amener un public international vers ce film, et donc vers Netflix. Et ils font ça un peu dans tous les pays. Et actuellement, ils le font en Inde, avec un projet d'une série adaptée du film Gangs of Wasseypur, donc qui est une porte d'entrée effectivement pour le public indien qui l'a vu, mais pour le public international qui connaît ce titre.
Mais c'est prometteur, je trouve, comme démarche.
Yannick, oui.
Je trouve que cette démarche est relativement prometteuse, parce que si Tigre et Dragon est extrêmement classique et a de gros défauts, on est bien d'accord, si le film marche, ils pourront se permettre d'oser des choses peut-être un petit peu plus dangereuses, un petit peu plus expérimentales, et on peut espérer de belles productions dans les années à venir.
Netflix le fera pas avec ses prods étrangères. Ils le font déjà avec leurs prods américaines.
Il y a des séries
très, très novatrices et très intéressantes, mais d'un point de vue business, ils vont pas s'amuser ils vont pas prendre de risques à l'international.
C'est un peu trop tôt, peut-être.
Ça va être des produits. Voilà, ils ont fait ça en Argentine aussi avec des séries sud-américaines très, très, voilà, très calibrées, très balisées, où ils servent de la telenovela. Voilà, et ils ont fait ça au Japon aussi. Ils font ça, voilà, ils font ça dans tous les pays. Et ils vont pas prendre de risques, quoi, de ce côté-là. Je pense pas que.
Donc tu dis que Marseille, ça va être tout pourri, en fait.
Non, ça va pas être tout pourri, mais ça va être très calibré pour le public français, quoi.
Voilà. Clo-Clo, tout ça.
Ouais, il y a Majimel dedans, en plus, d'ailleurs.
Ouais.
Ah, tiens, quoi, s'il sort de prison, je sais pas.
Il ne fera peut-être pas la saison 2, c'est ça.
Et voilà, mais Canal a fait ça avec Baron Noir, qui était très bien, d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup aimé Baron Noir. Mais voilà, Netflix, ils veulent faire ça, et mais ils prendront pas de risques, hein, c'est sûr et certain.
Alors, par contre, pour revenir, effectivement, à The Assassin, à Tigre Dragon 2, et quelle que soit la politique de Netflix, on sent quand même une résurgence à travers ces deux films, mais aussi à travers l'annonce du prochain Suark, qui est une troisième partie à Detective D, dans trois domaines complètement différents, une résurgence du Wuxia Pian. Ça fait quand même une heure et demie qu'on en parle. Est-ce que vous trouvez justement que mondialement et localement, en Chine, c'est un genre qui revient à la mode et qui a une actualité, ou en tout cas un avenir certain?
Mais est-ce que ça avait vraiment disparu?
Je pense que ça a vraiment estompé, il faut les nouveaux produits d'appel pour revenir. Pendant quelques années, c'est vraiment disparu, ou du moins la Chine continentale en produisait, c'était les Wuxia Pian, où tout l'aspect avait été un peu fantastique, des complètement gommés, c'est des trucs beaucoup plus terre-à-terre, même les chorégraphies, bon voilà, les mecs, ils bondissaient plus, c'était vraiment... C'était plus du récit de chevalerie. C'est un peu la différence au Japon entre le Jigageki et le Shambara. Et là, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on avait plus des films historiques avec des grandes scènes de bataille épiques qui flirtaient un peu vers le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça, plutôt que vraiment le pur récit, le film de chevalerie. Là, il y a quelques résurgences qui commencent à arriver au fur et à mesure. Mais est-ce que le genre va renaître? Ça, je suis pas sûr. Hein, donc,
Elias,
j'ai parlé d'un terme purement commercial, comme c'est ce que je connais mieux pour la Chine. Depuis
allez, 9-10 mois que je couvre le box-office, j'ai pas eu un seul film chinois de Wu Xiapian qui a marché vraiment dans le top 10. Je crois que c'est le seul blockbuster chinois qui a réussi à marcher, c'est la série Mojin The Last Legend, donc qui est plutôt d'un film qui,
c'est la série,
Mojin The Last Legend. Mojin. Qui est donc une série.
Et ça marche peut-être mieux à l'étranger, en fait.
Bah, en fait, j'entends pas parler de Wu Xiapian en France, et j'entends pas parler de Wu Xiapian qui marche en Chine. Donc,
ils sont en DTV ici.
Moi, je peux pas juger du film.
Il y a pas mal de Donnie Yen,
Donnie Yen historique, bien évidemment.
Je parle uniquement du marché chinois et des succès en Chine, mais en tout cas, enfin, en Chine, ce qui marche, c'est des films américains et Mojin The Last Legend et The Mermaid. C'est la CS1. Du moins, dans ce que je vois, dans ce que je vois qui marche et ce que je vois qui fait de l'argent, le Wu Xiapian, c'est pas ça qui actuellement est à la mode, du moins en Chine, c'est sûr
et
certain.
Et j'en ai tout The West.
Est-ce que pour la France, je pense qu'il y a eu une saturation vers le milieu des années, bah dans la continuité de Tigre et Dragon, à un moment donné, les éditeurs sortaient tout et n'importe quoi. On pouvait avoir autant des bons show brothers que des trucs pas possibles.
Au moins, grâce à ça, on a eu beaucoup de show brothers.
Ah oui, ça, c'était une belle époque. Mais bon, après, les éditeurs sortaient tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'on se retrouvait à acheter sans trop savoir.
On se retrouvait
devant des nanars, et du coup, ils ont un peu saturé le marché.
Ouais, c'est la force de la culture, et c'est grâce à ça que tu as pu rentrer chez Istasia.
Oui, merci.
Ça a coûté cher.
Donc, le Wuxia, qui n'est certainement jamais parti, n'est pas non plus forcément de retour, mais peut-être que le cinéma de Hong Kong tel que l'on l'entend avec John Woo ou la catégorie 3 est de retour, et c'est ce dont nous allons parler dans cette deuxième partie.